Alors c'est ouvert, ceux qui veulent prendre les guitares, on la sonorise direct, là, sur le moment. Alors venez, et puis on essaie de faire au mieux, avec les buzz du soir, là, il y a du buzz.
Le moulinage en chantier. Une émission proposée par le collectif du moulinage de Chirol.
Déjà, on peut dire un grand merci et un énorme bravo à Guy qui a installé ce système là, tout ça là, tout ce qu'il y a là, c'est Guy Chou qui a installé toute cette technique, toutes les lecs. Tout ce qui est présent ici pour qu'on fasse la teuf ici, il a passé beaucoup de temps pour que ça existe ici. Ici ce soir, là, c'est très nouveau. On arrive juste pour vous accueillir, pour passer du bon temps ici ce soir, tous ensemble. C'est vraiment un régal de vous voir là. Et ceux qui veulent prendre l'instrument...
Oui, c'est un régal de voir ce moulinage prendre forme, vie et couleur. Et comme le disait à l'instant Jean-Phi, au soir du Nouvel An, c'est un plaisir de pouvoir enfin y accueillir au chaud, au sec, avec fenêtres, isolation et électricité. Et en musique, mais ça change pas. Cette troisième émission du Moulinage en chantier s'ouvre sur la nouvelle année. C'est l'occasion de faire un état des lieux, une pause peut-être, pour admirer le travail déjà accompli, avant de se tourner vers tout ce qui reste à faire. Le mois de décembre 2019 aura vu pousser, par exemple, un dortoir. Chauffé, isolé, adossé au foyer dont on a déjà parlé ici. Et puis aussi des sanitaires, comme on les appelle, avec 4 douches et des casiers de rangement pour les affaires de chantier. Un atelier d'art plastique. Une salle dite polymorphe, en préfiguration de la future salle de spectacle qui pourra accueillir fêtes, répétitions et autres envies de création. Tous ces espaces, toujours qualifiés de temporitifs, sont aujourd'hui clos, mais ouverts à tous, peints, enduits, échauffés, tout ça grâce à l'énergie incroyable des bénévoles du chantier, qu'ils soient résidents sur place, en caravane ou de passage pour quelques jours, quelques semaines, voire plus. Le nouvel an, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau, c'est une échéance claire qui vient rythmer un projet au temps long, au temps parfois source d'angoisse ou bien d'impatience. Dans cette émission, comme dans les précédentes, tous les extraits musicaux seront issus de moments festifs vécus au moulinage. On y entendra chanter la beauté de l'aventure humaine, mais aussi hurler l'absurde des chiffres et des tableaux, des cases à remplir et des mots valises à débiter pour montrer patte blanche à certaines portes, mais je m'égare. À propos de valises, ou à propos de portes, qui, elles, s'ouvrent volontiers, on ira aussi dans cette émission du côté des Calanques de Marseille, à la rencontre d'un autre collectif qui s'est, lui aussi, lancé dans la réhabilitation d'un ancien site industriel. Certes, en meilleur état que le nôtre, trois fois plus petit que le moulinage, dans une zone où aucune pluie cévenole ne viendrait inonder un studio musique plein de matériel son à la veille de Noël. Mais qui pourrait bien risquer, lui aussi, de se prendre quelques pierres sur la tête. Oui, bon, parce que quand on dit qu'au moulinage, ça y est, on est au sec, eh ben oui, mais pas partout, et pas tout le temps. Parmi les chantiers de cette fin d'année, on a quand même eu droit à l'urgence climatique d'un ruisseau qui dévale soudain la montagne pour s'écouler dans le bâtiment, et puis à un bon bout de mur en pierre sèche qui s'effondre à quelques mètres de nos fenêtres toutes neuves. Parce que oui, on a des fenêtres toutes neuves et en bois local, sur toute une partie du bâtiment. Et ça, c'est du définitif. Et ça, c'est un événement.
Champagne !
Assez parlé de nous. Il est temps d'écouter les autres raconter. Raconter comment c'était avant. Autour de la table, il y a certaines voix que vous reconnaîtrez peut-être pour les avoir entendues dans l'émission précédente. Il y a celle de Naka, cueilleur fruitier et ancien facteur, et il y a celle de Marcel, qui nous parlait de la supérette qu'il tenait à Pont de Verrières, à quelques mètres du moulinage. Mais surtout, il y a les frères Verts. Régis, que l'on entend un peu, mais surtout Michel, à la mémoire incroyable et au regard pétillant. Michel, dont la langue, à son grand regret, ne va pas toujours aussi vite que les souvenirs qui, eux, déferlent durant des heures dès qu'on lui demande de nous parler de l'usine où il a passé 39 ans de sa vie. Leur sœur, Marie-Thérèse, qui y a également travaillé tout comme leur maman, rejoint la table en cours de route. Bon voyage à leur écoute.
Je travaille à tous les bâtiments. Il y a même une époque, il y a le bâtiment du côté rivière, tout un étage, c'était des appartements, le plus haut étage. À l'entrée, il y a un escalier en colimaçon qui monte. C'était les habitations, là, tout le couloir, tout le bâtiment, les deux salles.
Et qui vivait là?
C'était des ouvriers. Parce qu'à l'époque, tous les bâtiments de l'usine, il devait y avoir entre 50 et 60 personnes, adultes ou enfants. Quand je suis rentré, c'était le début des années 60.
Et dans les familles qui vivaient là, en général, c'était soit le mari, soit la femme qui travaillait ou les deux travaillaient?
Des fois les deux, ça dépendait. Ils s'arrangeaient pour travailler, parce qu'ils faisaient équipe, un matin, l'autre après-midi, ils s'arrangeaient pour travailler tous les deux. Et des fois, il y en avait qu'un, ça dépendait.
Et vous avez travaillé dans l'usine?
Tous les deux.
39 ans.
Ouais, 39 ans, j'en ai vu des choses.
Donc vous êtes rentré quand à l'usine?
Je suis rentré le 6 mai 1963, je vous dirai la date, et je suis parti en 2001, au mois de décembre 2001, mais je ne me rappelle pas le jour que je suis parti. Décembre 2001, 39 ans presque.
Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré à l'usine?
Pas tout à fait 18 ans. Il se manque de quelques mois pour avoir 18 ans. J'étais le, comme on disait à l'époque, j'étais le gamin.
Ah ouais.
J'étais le gamin, et quand je suis parti, j'étais un des plus vieux. J'avais presque 57 ans. Je travaillais tous les bâtiments. Et j'ai commencé à travailler au bâtiment d'en haut, là, parce qu'il y a des machines à côté des entrepôts, là où l'ascenseur arrive. Le bâtiment d'en haut, l'ascenseur arrive là-haut. Et bien, à cette salle qui est l'ascenseur, j'ai travaillé là. C'était la première machine que j'ai travaillé là. Puis après, je suis descendu en bas, ils m'ont monté de partout. Après, dans tous les recoins. Et même là où il y a des commissions maintenant, il y a des machines où j'ai travaillé.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné à faire quand vous êtes arrivé? C'était quoi? C'était en quoi le travail?
On travaillait le synthétique, et on faisait garnir les machines. Et quand les tubes étaient pleins, on les enlevait, on les portait aux femmes pour bobiner. Et puis après, ça partait dans les bonnetteries, ils appelaient.
Les bonnetteries, c'est quoi les bonnetteries?
Ça passait au tissage, puis ça était pour faire les vêtements.
Vous étiez le plus jeune quand vous êtes rentré?
Oh, il y en a d'autres qui étaient un peu un an ou deux de moins que moi. Moi, je suis rentré, j'avais presque 18 ans, il y en a qui étaient rentrés à 16 ans. Il y en a qui étaient rentrés à 16 ans, d'autres à 14 ans, il y en a. Même à une époque, les personnes rentraient à 12 ans pour travailler. Mm-hmm. Ma maman, elle était née en 1909, elle était rentrée en 1921 pour travailler.
Elle avait travaillé à l'usine de Pont-de-Verrières aussi?
Oui.
Ouais. Elle y travaillait encore quand vous êtes
allé? Non. Quand elle s'est mariée, elle a pu travailler. D'accord. Parce qu'on était fils d'agriculteur et on a essayé de faire agriculteur. Moi, j'avais 18 ans, mais il y a des personnes qui avaient 55 ou 60 ans parce que l'âge de la retraite, c'était 65 ans. Et ils rentraient pour travailler des fois un an, deux ans, trois ans pour arriver à 65 ans.
Et donc l'usine, elle tournait jour et nuit tout le temps.
On arrêtait que pour les congés. On arrêtait que pour les congés. À l'époque, quand je suis rentré, on avait trois semaines de congés quand je suis rentré en 63. Puis ils ont mis la 4e semaine en 68 ou 9. En 82 ou 3, ils ont mis la 5e semaine.
Et donc vous avez vu des gens arriver qui n'avaient jamais travaillé à l'usine de leur vie et qui débarquaient pour les quelques dernières années de leur vie professionnelle. Et comment ça... Qu'est-ce que ça leur faisait? Enfin, ça doit faire bizarre quand même quand on a travaillé.
Enfin, ils n'avaient pas le choix de pouvoir vivre parce qu'il y avait tellement de charges pour payer et puis il fallait bien manger.
Michel et Régis sont fiers de me montrer les livres qu'ils possèdent là, sur l'histoire de l'usine et de la famille Plantevin.
Non, pas encore. Donc là, la saga de Jean-Louis Plantevin et de ses successeurs a fait l'objet d'un ouvrage rédigé par Yves Morel. Donc oui, ça, je l'ai lu. Jean-Louis Plantevin se comporta en véritable capitaine d'industrie en partant de rien. Il parvint à construire un riche patrimoine en œuvrant dans le textile. Oui, un peu, il y a la légende de l'arrière-arrière-arrière-grand-père qui a commencé ouvrier et qui a créé son usine.
Oui, parce qu'ils se sont succédés.
Oui.
D'abord, j'ai vu, là, je ne sais pas si vous connaissez, M. Henri Plantevin, là, il nous fait en parler, tout le monde parle maintenant. Il a dit, eh bien, de père en fils, nous avons fait tourner l'usine de Verrières 150 ans. 150 ans. À partir de Jean-Louis Plantevin. Mmh.
Et donc vous, quand vous aviez travaillé, le patron, c'était quel Plantevin ?
Là, c'était quand je suis rentré, c'était M. Jean Plantevin.
Le père d'Henri.
Le père d'Henri.
Oui.
Et M. Henri, qui, je sais que j'ai rencontré M. Jean, m'a dit comme ça, je vous embaucherai, mais il faut attendre que M. Henri il est en voyage d'affaires, et quand il rentrera, je vous ferai dire quelque chose. Et en effet, il m'a fait dire quelque chose, il m'a dit, vous rentrez le 6 mai. Et puis c'est terminé, je suis rentré le 6 mai à 7 heures.
C'est un souvenir joyeux quand vous en parlez, là, vous avez le sourire.
Ah, bien sûr,
oui. Vous étiez content d'avoir
cette place. Ah, bien sûr, parce qu'il fallait bien gagner sa vie, quoi. Et quand je suis rentré, il faisait un bâtiment là, le long de la grande salle, là, que c'est couvert en toile marron.
Il était fait pour quoi, ce bâtiment ?
À une époque, c'était pour stocker du fil, le fil qui recevait, le fil qui partait. D'un côté, du côté du pré, c'était ceux qui rentraient, et là, d'autre bout de la salle, que... Il y a une marche comme ça pour descendre dans la salle. On faisait passer le carton pour envoyer dans le carton. C'était beaucoup de travailler.
C'était un travail très physique ?
C'était pas de tout repos, mais en fait, on le faisait de...
Il y avait beaucoup de choses à lourdes à porter ?
Non, c'est pas trop, parce que ça faisait 25 kg de carton, maximum. Mais la majeure partie, c'était dans les machines. Il y avait un arrêt où il y a un coup de bourre. Et il y était trois par équipe. Hein. S'il y a un coup de bourre pour décharger un camion, ils en prenaient un sur l'équipe. Hein. Et c'est arrivé que c'était moi qui allais. Et comme tout le monde, des fois, tantôt moi, tantôt les autres.
Donc ça tournait pour décharger les camions. C'était pas des ouvriers qui étaient toujours au déchargement des camions ?
Si, il y en avait quelques-uns, mais des fois, ils envoyaient un renfort. Mmh. Parce que quand il arrivait un camion remorque plein, qu'il fallait le décharger et recharger l'autre pour partir quand il était vide de recharger, mais il y en avait pour au moins. Surtout qu'il n'y avait pas les fins week, puis après, quand il y avait les fins week, c'était venu à la mode.
C'était quoi, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les jours ?
Il y a des fois, il y avait quand même le même jour, des fois de 3 jours, il y en avait point, puis il y en avait un autre, ainsi de suite, c'était pas régulier.
C'était pas régulier,
il y en avait d'autres.
Parle un peu des Allemands qui venaient charger, là, les camions allemands.
Alors,
c'était France.
France.
Non, une entreprise allemande venait chercher de la soie ici, enfin des bobines.
Des bobines.
Le gars, il faisait 3 voyages par semaine à cette époque-là. Ouais. Mais attention, il fallait voir comment ça fonctionnait avec l'Allemagne. Mais le problème qu'il y a eu après, c'est que quand il y a eu la Chine, quand c'est bien développé, ouais. L'Allemagne, elle a ralenti. Et c'est là que ça a commencé à
le
avoir des problèmes.
Le déclic.
Et ensuite, il y a eu un problème, c'est-à-dire que les ouvriers, ils ont fait grève, ça n'a pas arrangé les choses non plus. Ça n'a pas été bon, vous voyez. Il fut un temps où les jeunes filles passaient le certificat à l'école. Le lendemain, si elles voulaient, elles pouvaient aller travailler à l'usine Plantevin. Sans rien demander à personne, hein. Elles allaient là-bas. On les prenait, elles travaillaient.
Elles se présentaient à l'entrée et on les
oui.
prenait pour la journée.
Oui, et même la direction de Plantevin, il fut un temps qu'elle a fait venir des jeunes filles orphelines de Marseille. Mmh. Peut-être pas beaucoup, mais dans la commune, il y en a, je pense qu'il y en a au moins 3 qui se sont mariées dans la commune.
Donc les jeunes filles qu'on a fait venir de Marseille, ça c'était à l'époque de votre maman ?
Oui, c'était à l'époque de ma maman, oui. Mmh. Et elles sont parties, vous avez dû voir sur les livres là de Morin qu'une partie de l'usine s'était brûlée au début des années 30, et bien elles sont parties à ce moment-là. Moi j'ai su parler, parce que je travaillais moi avec des papiers qui avaient 40 ans de plus que moi à l'usine, ils le disaient. Et bien moi je me rappelle quand ça s'est brûlé, et bien le feu c'était en vérité là.
Ça se racontait entre les ouvriers les plus jeunes, les plus âgés, les histoires. Il vous racontait les histoires de comment c'était avant, il y avait de la transmission.
Ça a bien aidé pour nous dire de savoir un peu comment ça marchait à l'époque. Mais on a travaillé l'autre mois de montagne, on travaillait avec le synthétique. La soie, c'était fini.
C'était fini.
C'était fini parce que la soie, elle a fini. Peut-être quand je suis rentré, Là où il y avait l'écomusée, ils en faisaient peut-être un peu en bas. Quand je suis rentré, ils ont tout cassé les machines.
Et quand vous êtes arrivé à l'usine, il y avait combien d'ouvriers, d'ouvrières?
Oh, on devait être une bonne centaine. Là, le plus fort, c'était en 74. Ici, au Pont de Verrières, on avait voté pour le comité d'établissement. Il fallait voter pour le comité d'établissement parce qu'il fallait des délégués et tout. Eh bien, il y avait les cadres, ceux qui travaillaient au bureau, les contremaîtres et gouvernantes, et les ouvriers, on était 146 ou 7, les deux groupes.
En 74, 146 ou 7
146 ou 7. Et ils avaient plusieurs usines, le Pantevin. Ils étaient montés à 400 ouvriers.
Sur l'ensemble des usines Pantevin.
Oui, parce qu'ils en avaient une à Montposa,
oui.
Une à Saint-Pierre-de-Colombier, ça fait 2,
oui.
Une à Meyra, ça fait 3, celle du Pont de Verrières 4, à Tueil 5, au Perdu 6, à Salindre 7, et à Prades ils avaient à l'époque. Oui. Ils en avaient 8.
8 Pantevin.
Oui.
Mais à Burzé, il y en avait bien.
Non, mais c'était les autres plantés, c'était des cousins. On s'entendait tous, il y avait des fois des coups de gueule, mais enfin, c'était rare. Des fois, on se traitait de tous les noms d'oiseaux sur le coup de dire, puis 10 minutes après, on était d'accord. Comme partout.
Il y avait plus de femmes que d'hommes ou...
Ah oui, tout le temps, il y avait plus de femmes que d'hommes.
Beaucoup.
Ouais.
Beaucoup plus.
Ouais.
Ah oui, oui.
Ah tiens.
Pourquoi il y avait...
Beaucoup de femmes, on l'a reconnu.
La sœur de ces deux
messieurs. Ouais, je reconnais.
Bonjour ma cousine. Mm-hmm.
Bonjour.
Bonjour.
Il est de Burzé. Alors je le connais.
Si vous voulez nous asseoir avec nous, Michel est en train de nous raconter ses souvenirs à l'usine.
Ah.
Mais aussi, elle a travaillé aussi.
Ah, oui. Vous avez travaillé aussi.
Elle a connu ça elle aussi.
Elle a travaillé 4 ou 5 ans.
À l'usine.
Entre 62 et 66.
Vous vous rappelez le premier jour où vous êtes arrivé à l'usine?
Ah, mais je me rappelle que c'était aujourd'hui.
C'était comment? Est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là?
Quand on sortait, on n'entendait rien.
On n'entendait rien.
Il y avait un bruit là-bas. Alors quand on était resté 8 heures, là, le premier jour, quand on sortait, on était comme Marcel.
Oui,
on avait les oreilles bouchées.
Mais c'était un bruit régulier quand même.
Ça sifflait, ouais, quand même. Ouais.
Oui.
T'entendais
ça? C'est un bruit aigu, ça sifflait?
Ça sifflait, ouais. C'était un sifflement.
Ouais.
Ça faisait quoi comme bruit?
Et ça faisait un bruit là.
Un bruit sourd.
On parlait fort, puis après, à la fin, on s'habituait, quoi. On se comprenait mieux.
Ah, mais c'est le premier jour, là, quand j'ai fini à 5h du soir, ils m'ont parlé, mais j'ai passé comme un disque.
C'était assez pénible au début, le bruit surtout. Et la chaleur l'été.
La chaleur.
Il faisait chaud.
La chaleur humide.
C'était la chaleur aussi.
Bah, parce qu'il fallait qu'il fasse un certain degré de chaleur et d'humidité.
L'humidité, ouais.
Et en hiver, c'était comment?
Ah mais c'était bien l'hiver, on a eu chaud, on était bien. C'est bien. Non mais c'était quand même beaucoup mieux que chez les maçons. Hein.
Oui.
Parce que là, c'était quand même, on était dedans quand même.
Oui, à l'abri. Oui.
On pouvait boire, on pouvait... C'était pas comme les maçons qui sont au soleil ou au gel.
Mais on travaillait l'hiver en chemise comme ça.
Non, on était bien l'hiver, on était bien.
On travaillait en chemise comme ça.
Il y a juste que vous pouviez pas discuter parce qu'il y avait trop de bruit.
Oh non, on se débrouillait pour discuter. Si on le comprenait. Quand il y a un garçon qu'on le voyait, on le comprenait. Il n'y avait pas de problème.
Vous aviez droit à une pause ou vous restiez à l'usine quand vous aviez travaillé?
Non, on avait 20... Un quart d'heure.
Un quart d'heure.
Un quart d'heure ou demi-heure?
Oh, on n'avait pas demi-heure.
Non, pas demi-heure.
C'est même pas, c'était pas 10 minutes.
Oh.
À la journée, on avait dit un quart d'heure à la journée, quand je travaillais à la journée.
C'était des journées de combien d'heures?
8 heures.
8 heures.
8 heures, et sur la 8 heures, vous aviez un quart d'heure de pause. Et le reste du temps, on continue.
Je crois que c'était que 10 minutes.
Et pour manger,
Oui, ben on mangeait à ce moment-là. Ouais. On mangeait du pain, du fromage.
On mangeait
parce qu'on commençait à 4 heures au midi. Alors on mangeait à 9 heures.
Oui.
9 heures, on mangeait, puis à midi, on allait manger chez nous.
D'accord.
Ouais. Ce qu'on l'a dit à Charret, là, au contremaître, là, on lui a dit quand même que c'était un peu court. Au moment, on ne mange pas une cuisse d'agneau pour des jeunes. On ne porte pas une cuisse d'agneau. Hein. Mais pour manger un peu du pain et du fromage, ben, c'était pas.
Et lui, il avait plus le contremaître.
Ah ben lui, il avait son pain d'honneur, oui.
Ouais.
Mais il est quand même s'étonné. Il s'étonnait quand même.
Vous preniez un petit déjeuner le matin avant de venir à
Ah ben en décembre, à la maison, on buvait le café au lait, oui. Mmh.
Le café, on mettait un bout de pain dedans, puis vers les 8 heures, on a déjeuné.
C'était 9 heures, il me semble.
Et c'était quoi le reste de la journée après?
Ah ben après, on était à la campagne, on allait garder les moutons, on allait ramasser les fruits, on allait rateler quand il fallait rentrer le fouet, et c'était la campagne.
Donc la journée de travail n'était pas terminée en rentrant de cuisine.
C'était quand même plus cool après.
Tout à l'heure, il vous a dit qu'il avait 3 semaines de congé. Mais il ne nous a pas dit que pendant ses congés, il coupait le foin chez ses parents là-haut.
Bon. Vous
voyez, il fallait travailler, hein.
Oui.
Il fallait faire ça.
Vous écoutez Le Moulinage en Chantier, l'émission du moulinage de Chirol sur Fréquence 7. Sur les hauteurs de l'Estac, à Marseille, un collectif d'artistes a racheté l'ancien atelier mécanique de la cimenterie Lafarge au printemps 2019. Tiens, ils ont eu les clés en même temps que nous au moulinage. Et eux aussi avaient eu le temps de rêver de ce jour pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ils réhabilitent ce lieu de 1500 m² entouré par des falaises de 25 mètres. Ils y ont créé une cuisine, des salles de musique, de danse, des ateliers photo et d'art plastique. Comme le nôtre, ce collectif autogéré revendique la propriété d'usage au lieu de la propriété privée et refuse la spéculation immobilière. Comme nous aussi, tous ses membres participent de manière bénévole à l'autoréhabilitation des bâtiments. Aldo, qui vit sur place, guide Nina dans ce lieu pluridisciplinaire de vie et d'hospitalité artistique.
En plus, elle est chauffée.
Waouh, en effet.
Donc le parquet, je l'avais fait il y a 2 ans, ça a été un mois et demi, on va dire, je ne sais plus, de travail pour rainurer des planches qu'on a récupérées, qui étaient en fait les tables de la fac d'art dramatique à Aix. Dont sont issus une partie des gens du collectif. Du coup, on avait eu le plan de récupérer ça quand ils les ont changés. Donc il a fallu dévisser, décoller les chewing-gums dessous, et on voit encore les écritures, tu vois.
Ah oui.
Et les dessins,
trop marrant.
Et les étiquettes pour les examens. Et en fait, du coup, ça fait un parquet en bois rouge qui est sur qui est souple.
Ouais.
Tu vois, qui est sur des doubles lambourdages, avec des patins en caoutchouc et tout, donc...
Donc voilà. Ça, pour la danse, c'est parfait.
Bah oui, ça fait pas mal aux articulations.
Uh-huh. C'est génial, vous avez fait un plancher avec des tables de fac, en
ouais.
fait.
Du coup, là, on a récupéré une soufflerie de chapiteaux, on a récupéré les planches, là, on a fait tout le plafond en 3 jours aussi,
ouais.
Mais à 10. On a été démonter les planches dans une ancienne usine, et on les a montées par là, et on les a vissées. On a mis des bâches pour pouvoir chauffer un peu. Là, il y a des filles qui préparent la lumière pour la soirée de soutien à ce qui se passe au Chili en ce moment, aux associations qui luttent là-bas avec l'argent qui va leur être envoyé. Et du coup, il y a des concerts, des projections, de la danse. Et c'est samedi. Là, il y a une costumerie pour le théâtre.
Ouais, donc on voit effectivement plein de manteaux, vestes de costume, robes. Et des valises pleines de déguisements.
Oui. Là, des lumières, certaines qu'on nous a prêtées, d'autres qu'on nous a données, certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Alors là, il y a le théâtre. Là, il y a le théâtre. Voilà. On va nous reprendre le tapis de danse qu'on nous avait prêté bientôt, malheureusement.
Ah.
Donc là, c'est noir partout, mais c'est pour travailler la lumière, quoi. C'est un théâtre, quoi.
Mm-hmm.
Très sombre, voilà.
Et je me demandais, comme tu disais, là, les musiciens qui sont là encore pour une semaine ou 2 semaines.
Oui.
Donc finalement, les temps de résidence, ça varie à chaque fois en fonction des besoins
oui.
des uns et des autres.
Oui, je disais, on favorisait un petit peu, on s'est dit que c'était bien d'essayer de favoriser les résidences un peu longues.
Mmh.
Ça peut aller de 3 semaines à 3 mois. Alors là, je ne sais pas si je peux vraiment te montrer, mais tu peux imaginer que là, il y a... C'est l'ancien atelier qu'on a déplacé et du coup on a construit une salle de montage pour le cinéma. Ah si, je te montre la salle de bain qui est derrière.
Qu'est-ce que c'est qui coule là ?
Quand il pleut, toute l'eau qui tombe dans les carrières mm-hmm. ressort au niveau de la falaise, tu vois. C'est les nappes qui sortent parce qu'ici, comme ça a été creusé, ça sort de la falaise.
Ah ouais.
Tu vois, là il y a les grillages qui sont en train d'installer pour sécuriser.
Ouais.
Et bon bah nous on verra comment on arrive et parce qu'il va même falloir qu'on essaye de quand même enfin ce serait chouette qu'on essaye de récupérer un peu l'eau. Donc la salle de bain, tu vois les anciens rangements pour les ouvriers qui.
Ah oui, vous avez gardé les rangements des habits des ouvriers.
On n'a rien fait même, on a juste repeint en blanc les douches et repeint en jaune les vieilles, mais il était déjà jaune.
Ok, donc voilà, c'est l'évier collectif, là, il était déjà là.
Et là, il y a le sauna.
Vous avez installé un sauna?
Ouais, l'hiver dernier, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis revenu de Budapest. J'ai repris l'idée d'un d'entre nous et j'ai dit, allez, je le fais.
Il faut savoir que Achirol, c'est un peu un de nos rêves secrets depuis le début.
Oui. Et c'est un peu une folie, mais ça ne sert que de temps en temps. Mais j'ai mis 2 mois et demi à le faire quand même, en demandant de l'aide à tous les copains. Mais bon, il fallait aller au bout du truc, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est des bouts de bois qu'on a récupérés à la fac qui restaient, avec lesquels on va faire des terrasses. Mais du coup, on a fait les bancs en bois rouge, là. C'est tout en récup, hein, ça a coûté... on a acheté juste un peu de carrelage, quoi.
D'accord. Et les douches qui sont là, c'est vous qui les avez installées ou
Non, elles y étaient.
Nina et Aldo sortent du bâtiment
par là.
Pour monter sur la partie haute du terrain, sous la falaise.
Si les caravanes elles sont si collées, c'est parce qu'il y a toute la partie en bas de la falaise qui n'était pas safe et qui est en travaux, et du coup on a tout resserré comme ça.
Ouais, c'est-à-dire que les falaises qu'on a autour de nous, là, vous savez pas s'il n'y a pas un gros caillou qui peut tomber à un moment ou à un autre.
Ouais, il n'y en a jamais eu, mais quand à un moment on avait des chèvres qui se baladaient sur les falaises et qui faisaient tomber des petits cailloux, on s'est quand même dit que ça pouvait être dangereux. On a enlevé les chèvres. Et non, mais c'est surtout si... Enfin oui, mais même un petit caillou peut faire très mal, hein, il suffit d'avoir un coup de... un jour, quoi. Puis surtout, un jour, il peut y avoir un gros caillou, on ne sait pas. Hein. Il peut y en avoir un dans 10 ans, comme il peut y en avoir un demain, mais...
Ouais.
C'est pas rien d'être dans une carrière entourée par des falaises de 25 mètres. En ce moment, là, ça, pour 3 mois, là, ça fait déjà plus d'un mois qu'ils sont 5 ou 7 sur les parois accrochés à des bonneries en train de faire du marteau-piqueur et ils sont en train de sécuriser les falaises et de mettre des grillages partout. Donc il y a du marteau-piqueur toute la journée, c'est assourdissant. Mais avant, il y avait des petites pierres qui tombaient régulièrement, puis on avait peur qu'il y en ait une grosse qui tombe, donc on a enclenché la procédure, enfin on a demandé à la Farge de sécuriser, parce que c'est leur terrain.
Ah, c'est, le terrain appartient toujours à la Farge?
Autour.
Bah parce que, alors, c'est parce qu'il y a une carrière au-dessus, c'est ça?
Ouais, il y a une grande carrière de granulats. C'est eux qui font de la poussière, comme ça. Et du coup, ça a mis 2 ans, mais ils ont mis en place la sécurisation. Et c'est un gros chantier. Et donc, en fait, cette poussière, ces pierres, ces falaises, cette carrière... des pitons rocheux de part et d'autre, là, comme ça. Et aussi ces bâtiments en ciment, la Farge, qui ont toute une histoire quand même, avec avant ces ouvriers qui travaillaient le métal aussi, et qui... parce que c'était l'atelier mécanique de la Farge. Pour réparer les machines, faire les pièces. Donc, il y avait des ouvriers qui soudaient, après il y a eu une école de soudure. Non, c'était l'atelier mécanique de la cimenterie.
Ok.
Qui a été détruit il y a 20 ans, on voit dans le film de Guédiguian, de Marius et Jeannette, là, les gravats de l'usine, c'était sur le terrain un peu plus bas. Là.
Ah d'accord.
Bah du coup, oui, d'être dans un ancien bâtiment industriel comme ça, de construction mécanique et tout, c'est beau. Il y a encore les ponts, je ne sais pas si tu as vu, enfin je te ferai la visite après, il y a les ponts, des gros IPN, 40 cm d'épaisseur, avec des ponts métalliques qui peuvent rouler et qui peuvent soulever jusqu'à 5 tonnes. Il y en a deux, un c'est 1,5 tonne, un c'est 5 tonnes. Et l'autre jour, dans des impros qu'on a fait en collectif justement, là, pendant un mois, en octobre, à un moment, moi j'ai eu envie de soulever un camion avec un palan et de le faire tourner. J'ai mis en place pendant 2-3 jours l'accroche. Et du coup, après, pendant l'impro, à un moment, je soulevais le camion. Mais voilà. C'était marrant.
Oui. Si c'était pas dans ce lieu-là, tu n'aurais pas eu cette idée d'improvisation, du coup.
Ben non, ouais, surtout techniquement, ça m'a donné envie d'utiliser là, le palan mécanique.
Mm-mm.
C'est comme si t'as une contrebasse qui est posée là, et à un moment, si tu veux, tu la prends et tu joues avec, quoi. Mais...
Vous écoutez Le Moulinage en chantier, l'émission du moulinage de Chirol sur Fréquence 7. À l'approche du nouvel an, nous sommes nombreux au moulinage. C'est une semaine de chantier collectif, comme on en a connu l'été dernier, en attendant d'organiser bientôt de vrais chantiers participatifs ouverts à toutes et à tous. Beaucoup de bénévoles de passage et de copains du coin sont venus se greffer au groupe pour l'occasion, à tel point qu'ils sont souvent plus nombreux que les membres du collectif eux-mêmes. Certains membres, qui n'habitent pas encore dans le coin, en ont profité pour venir passer quelques jours à Chirol. Certains d'entre eux n'avaient pas vu le moulinage depuis plusieurs mois. C'est l'occasion pour eux de découvrir et d'halluciner sur l'ampleur du travail accompli.
On est où là ?
On est dans le... Alors je ne sais pas s'il est tout nouveau, mais on est dans le dortoir qui a une température très agréable, où il y a quelques lits les uns à côté des autres, les uns le long des autres, et puis un peu au milieu de la pièce aussi, avec des tapis par terre, et une belle guirlande de fêtes foraines de toutes les couleurs, et puis une échelle, un balai et des projecteurs de chantier, parce que quand même c'est le moulinage, et qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie qu'on est sur un chantier.
Et il est tout nouveau, et c'est le premier soir où il va servir.
Ah ça je ne savais pas, je suis hyper touché du coup, de pouvoir étrenner le dortoir du moulinage, ça c'est cool.
Tu vas dormir où toi ?
Je ne sais pas, mais on va faire une bataille de pyjama du coup. De polochon, enfin, un truc comme ça. Et ben, pour me présenter, alors, donc, je m'appelle Antoine. Je suis architecte et puis, du coup, constructeur. Alors, un peu un pied dans chaque monde, à faire chier les gens parce que je veux faire des dessins avant de couper des planches. Et puis, quand même, je me fais pardonner parce que je coupe des planches. Et bon, pas trop ici encore, alors je me fais pas totalement pardonner, mais ça viendra. Et du coup, c'est aussi une occasion pour moi, ce moulinage, d'être complètement débordé par ce projet, de dire que j'ai jamais vu un projet qui fonctionne comme ça, que de toute façon, ça peut pas marcher quand je m'énerve, parce que y a personne qui prend des décisions, y a pas de chef, comment c'est possible et tout. Et à peu près à chaque fois, le réel me donne tort. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche. Et qu'il fallait sortir un peu de sa pensée autoritaire pour faire ce projet-là, parce que sinon, ben, il n'était pas possible. Et en fait, il est possible que parce qu'il est géré au jour le jour, un peu sans règles, mais jamais sans bon sens. Qu'est-ce que c'est pour moi le moulinage ? Le moulinage, c'est déjà une longue histoire. Un projet complètement fou qui, au début, tournait autour de la possibilité ou l'impossibilité de racheter une usine pour y habiter et y travailler. Et pendant de longs mois, voire de longues années, on s'est demandé si c'était possible, s'il fallait qu'on y aille ou s'il fallait pas qu'on y aille, surtout qu'on n'y aille pas. Et puis, les gens et les fous s'agrégant les uns aux autres, on s'est tous monté la tête et auto-convaincu que c'était dangereux mais qu'il fallait quand même le faire, sinon on allait perdre une bonne occasion de se marrer. Et petit à petit on a décidé qu'il fallait y aller. Et du coup cette espèce de rêve d'ado attardé est devenu un vrai projet réel et qui fait peur, mais qui existe, et du coup qui est d'autant plus magique qu'il a l'air complètement fou et que tout le monde se disait qu'il fallait pas le faire au début. C'est un endroit où il y a toujours quelque chose à faire, voire toujours quelque chose à faire de trop. C'est un endroit qui fait rêver et qui fait peur. Il fait rêver parce que on imagine tout ce qu'on pourrait faire dedans, et c'est un rêve immense qui déborde complètement. On n'arrive jamais à le concentrer, ce rêve-là, et à le rendre un peu stable. Il bouge toujours de tous les côtés, il déborde. Et il dégueule de partout. Aujourd'hui, c'est un endroit dans lequel on peut marcher, dans lequel on peut parler aux gens, dans lequel on peut faire à manger et manger, dans lequel on peut se poser des questions existentielles sur le recyclage du contreplaqué, mais aussi de quelle couleur doivent être les fenêtres.
Champagne ! On a des fenêtres ! Merci l'Europe ! L'Europe, moi !
Je trouve que comme je travaille dans la construction aussi, je sais que quand il y a des fenêtres, tout va mieux. Quand il y a des fenêtres neuves et de bonne qualité, alors là, on est quand même sur la super bonne voie. Et sur les chantiers normaux, le jour où on met les fenêtres, une fois que c'est fini, en général, on fait une grosse fête. On fête le clos couvert et on est vraiment, vraiment content parce qu'on peut commencer les aménagements intérieurs et on sait que les choses ne vont pas pourrir et prendre l'eau. Donc symboliquement, c'est hyper important. Et puis le fait qu'elle soit arrivée finalement si vite, enfin en tout cas une partie des fenêtres sur le moulinage, c'est hyper encourageant, et d'un coup c'est encore un nouveau palier, une nouvelle marche qui fait que ce rêve-là se rapproche de la réalité. D'un coup, bah voilà, il fait chaud, on n'entend plus le bruit de la rivière quand on n'a plus envie de l'entendre. Et en ce moment, c'est l'hiver et la rivière fait beaucoup de bruit. Et puis là, on est à l'intérieur, on entend plutôt la cheminée et les gens qui marchent. Du coup, c'est hyper agréable et c'est pas du tout que symbolique, même si c'est aussi très symbolique cette histoire de fermer un bâtiment et que l'air froid rentre plus dedans et que les volets arrêtent de claquer. Et que voilà.
Roi de l'imprévu que nous sommes. Vous comprenez ce que je dis? Toi, tu ne comprends jamais rien. Je vais donc vous donner mon texte de grossesse. Comme toutes les femmes enceintes, je suis en panique. J'ai la tête qui bouillonne. J'ai la peur qui monte. Les questions qui débordent. Mais comment on va gérer ce bordel.
Je m'appelle Gaëlle, je suis la première salariée du collectif du Moulinage de Chirol depuis février 2017. Non, 2018. Donc ça va faire bientôt 2 ans déjà, au-delà d'être salariée. Moi je me sens aussi membre du projet à part entière, avec une place un peu particulière, un peu à part, puisque j'ai pas pour projet ni d'habiter ni de faire mes activités dans le moulinage, mais voilà, je trouve que j'y ai une certaine place. Le projet du moulinage de Chirol, au-delà d'une super belle aventure humaine, c'est une autre vision de la société, c'est une expérimentation d'une autre façon de voir la société, c'est une autre façon d'expérimenter la manière d'accéder au logement, une autre façon d'expérimenter la propriété, une autre façon d'expérimenter aussi la prise de décision collective. C'est vraiment un projet où on peut tout essayer et où on déstructure en fait toutes les pensées et on essaye de voir comment vivre les choses de la manière qui rejoint le plus nos valeurs, nos idéaux aussi. Donc c'est vraiment une belle expérimentation d'une belle utopie, mais d'une utopie qu'on imagine assez réaliste, quoi.
Depuis 3 ans, quand cela me vient, je fais un tableau Excel. Des durées, des surfaces, des noms, des sommes, cela me rassure.
J'ai un poste qui évolue, mais un poste multicasquette, mais j'ai un poste qui à la fois allie la recherche de financement pour le projet, mais aussi le suivi et la mise en action de ce qui est défendu dans les projets de financement. C'est le cas par exemple pour les fonds leaders, voilà, qui concernent particulièrement la charpente, les menuiseries. Donc j'ai un peu un suivi de tout le cadre à respecter pour pouvoir rentrer dans les carcans institutionnels, ce qui est parfois le cas pour certaines subventions un peu compliquées.
Je crée des feuilles de calcul et cela m'apaise. La réalité rentre enfin dans les cases. Je peux changer ces cases à tout moment, par un simple clic, le cul posé sur une chaise, face à un écran, je maîtrise le réel. Je dompte la matière. Et grâce à cela, je trouve des choses sacrées. Je trouve la chose sacrée. Je trouve le Saint Graal. Je trouve de l'argent!
C'est un projet atypique, en fait, le projet du moulinage. C'est un projet atypique parce que c'est un projet complètement innovant dans la mesure où il est à mi-chemin entre ce qu'on a l'habitude de connaître, qui est par exemple les projets associatifs où on défend un projet collectif, social par exemple, et un projet qui peut sembler plus individuel comme par exemple l'acquisition d'un logement. Et là, on est vraiment dans autre chose. On est vraiment sur un autre type de projet, sur comment on peut investir un lieu pour de l'habitat, pour de l'activité, pour de la culture, pour de la vie sociale, dans un format qui, me semble-t-il, n'existe pas trop ailleurs et qui, du coup, rentre pas dans les cases. Voilà. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que pour ces projets qui rentrent pas encore aujourd'hui dans les cases, hein, il faut faire bouger un peu les lignes, y a pas de financement facile. Des subventions publiques vont financer des associations qui sont toutes d'utilité sociale, hein, tout ce qui est politique publique. Il va y avoir des aides type d'amélioration à l'habitat pour des gens qui sont dans des projets individuels, mais pour dans des projets qui sont un peu mixtes, qui sont ni l'un ni l'autre, on est un peu hors clou et en fait on peut difficilement rentrer et dans l'un et dans l'autre. Et du coup, il faut arriver à trouver des financements qui puissent accepter d'être sur des modèles un peu novateurs, donc un peu des financements qui prennent un peu des risques sur des nouvelles façons de voir les choses, de penser. Et il n'y en a pas beaucoup. Les financements qu'on trouve sont des financements un peu parfois complexes, par exemple ceux de l'Union européenne. Du coup, on peut aller chercher ces financements-là, mais on cumule un certain nombre de difficultés. Et la première difficulté qui est connue de tous, c'est que pour les financements européens, il faut avancer toute la trésorerie et parfois pendant plusieurs années. Ça nous demande d'avancer tous ces fonds et puis de bien respecter toutes les contraintes et les critères des financements leaders qui sont parfois complexes, qui sont parfois pas du tout adaptés à la manière dont on voit le projet. Et du coup, il faut arriver à toujours trouver ce juste équilibre là.
Si on continue à être des gens sérieux, on nous donnera vraiment ces thunes. En attendant, on peut les inscrire dans nos futurs tableaux Excel.
L'Union européenne et la région, qui sont les deux structures qui nous aident sur ce projet-là. Comme il faut avancer les frais sur un temps long, il nous faut avancer cette trésorerie. Et cette trésorerie, si on l'utilise pour avancer les frais, on l'aura pas pour autre chose. Donc, il nous fallait une avance de trésorerie. Et sur un projet comme celui-ci, on a trouvé intéressant de pouvoir aller voir un peu autour de nous, auprès de nos adhérents, auprès de nos proches, s'ils avaient envie de soutenir le projet de cette manière-là, c'est-à-dire en nous prêtant de l'argent. C'est aussi un engagement qu'on demande à ces prêteurs solidaires, puisque en fait, c'est un prêt à taux zéro sur 5 ans, parce que on sait qu'on pourra les rembourser avec ces subventions et qu'aujourd'hui, les banques font des daïs. Les daïs, c'est ce qui permet à bon nombre d'associations de pouvoir avancer les frais de subvention, mais c'est quand même assez onéreux. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas essayer auprès de nos adhérents. Et en fait, on a des réponses positives. Les gens sont contents de pouvoir nous avancer, mais on a encore besoin. Donc, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent avancer... tout le monde est le bienvenu pour qu'on leur explique comment ça fonctionne. C'est très simple.
Non.
Voilà.
On n'est pas des clowns. On est des gens sérieux. Et même plus que cela, on est des gens innovants. Nous, on est presque une start-up. On participe à une nouvelle tendance socio-économique. On est ingénieux, on est disruptif, on est Fab Lab, on est Move Lab. On est local et ambitieux, on est participatif, on est démocratique, on est subventionnable.
Quoi, ce projet, il vient faire bouger ou pas ton rapport au temps, à la temporalité des choses? Ça, c'est une question très intéressante parce que j'ai un rapport au temps particulier, puisque moi, je suis quelqu'un qui court tout le temps. C'est bien, c'est un projet qui essaie de me faire me poser aussi, parce que le temps du projet du moulinage est long. Mon rapport au temps, c'est moi, j'ai toujours un peu tendance à courir dans les projets et quel qu'il soit. Donc c'est bien, ça me... Quand même, je pense que j'apprends. J'apprends, ça me fait bouger un peu, c'est pas mal. J'ai encore du boulot pour y arriver. Mais non, c'est voilà, c'est un projet de longue haleine, donc il ne faut pas s'épuiser, quoi.
J'ai encore envie de te poser une dernière question, ouais. Je veux. C'est quoi notre rapport au temps dans ce projet? Ou alors en quoi ce projet nous fait revoir notre rapport au temps, ou nous met à l'épreuve notre rapport au temps?
Alors, je peux répondre à ça que à titre individuel. Pour moi, c'est une problématique plus large dans ma vie parce que les projets d'architecture et de construction sont toujours très longs. Et je dirais pas longs, ils sont toujours très lents. Et ça me rend dingue. Je me dis que je suis peut-être pas fait pour ce métier parce qu'il n'y a pas moyen de faire des gros projets rapidement. Donc disons que je suis peut-être plus armé que certains pour qui c'est la première grosse opération. Je savais que ça allait être long, donc je l'ai pris comme un marathon dès le début, à la cool. J'imagine que ça doit être plus dur à vivre pour d'autres gens qui étaient moins préparés, parce que ça reste toujours difficile à vivre pour moi sur ce projet-là. Je m'étais un peu préparé. Après, je pense que petit à petit, et moi et les autres, j'espère, se sont fait à l'idée que c'était une contrainte, parce que bah, ça veut dire courir un marathon, et courir un marathon, c'est pas que agréable, mais que c'est aussi une chance parce qu'on a le temps de faire les choses bien. Et d'une certaine manière, alors qu'il y a toujours des rushs et des trucs à faire dans l'urgence sur un chantier, en général, c'est des petites choses qu'il y a à faire très vite. Mais le temps long fait que, paradoxalement, on sort de l'urgence. Parce que quand on regarde un endroit, on est toujours en train de se demander à quoi il va ressembler dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et du coup, c'est une pensée assez rassurante, même si ça fait un peu flipper pour son investissement personnel. Avec le temps, je trouve que c'est assez apaisant, cette histoire de temps long. Mais bon, l'autre moitié du temps, il y a l'ado qui s'énerve et j'ai envie de tout péter.
Pour toi, le chantier, il est au cœur du projet ou c'est un moyen d'arriver au projet? Alors, pour moi, le chantier, bizarrement, peut-être par rapport à d'autres, c'est pas l'essentiel, en fait. Pour moi, c'est l'idée qui me plaît. C'est les valeurs défendues, c'est la philosophie, c'est ce qu'on essaye de faire aboutir. C'est vraiment tout le côté utilité sociale du projet que je trouve intéressant. C'est le fait de vouloir permettre à des gens qui n'auraient pas le moyen d'accéder à une forme de propriété, de pouvoir lui permettre d'avoir un peu un chez-soi. Ouais, c'est ouvrir des portes de manière un peu différente, en sortant un peu des sentiers battus. Donc pour moi, le chantier, c'est une façon d'y arriver. Moi, j'aime beaucoup le côté chantier parce que je trouve que c'est des temps fédérateurs. Je trouve ça très agréable quand on est à plein et qu'on remplit des brouettes. Dans ces cas-là, j'aime beaucoup être petite main et qu'on me dise quoi faire parce que les prises de décision technique d'un bâtiment, c'est pas mon fort. C'est plutôt source de stress parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte dans la réhabilitation d'un bâtiment, par quoi il faut commencer, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est un métier qui n'est pas le mien, quoi.
Écoutez Le Moulinage en chantier, l'émission du moulinage de Chirol sur Fréquence 7.
Si cette émission vous a donné envie de venir nous filer un coup de main, on est preneur. N'hésitez pas à nous écrire à contact@lemoulinagedechirol.org. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.lemoulinagedechirol.org. Sur notre site, vous pouvez également adhérer à l'association et vous inscrire pour recevoir la newsletter.